Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux et vous êtes très beaux. Je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui sur cette plateforme magnifique qui est Salon d'Oud. J'ai vraiment toujours rêvé de faire une conférence avec une peinte. Donc, je remercie les organisateurs de me permettre de réaliser ce fantasme longuement désiré. Non, mais plus sérieusement, je vous remercie de l'invitation Salon d'Oud. C'est un honneur et j'en profite pour saluer votre travail qui est rigoureux et acharné, toute mon admiration envers ce projet qui est Salon d'Oud. Je ne sais pas si tout le monde a une feuille, j'ai préparé un exemplier avec les poèmes dont je vais parler, ça serait plus intéressant, sinon vous allez avoir l'impression que je parle dans le vent un petit peu, c'est toujours le fun d'avoir les poèmes sous les yeux lorsqu'on les lit, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de poésie, de résistance et d'épuisement, et je vais essayer de tisser des liens entre ces mots. J'en suis bien heureuse puisque ces termes sont au cœur de mon projet de thèse, donc au cœur de mes analyses littéraires, de mes recherches théoriques, mais aussi au cœur de ma démarche d'écriture qui est en poésie, comme Laurence l'a dit tout à l'heure. Je suis donc bien choyée de parler de ce qui aiguille mon désir ces temps-ci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire, je sais qu'il y a une période de questions après, mais si jamais je ne suis pas claire ou confuse, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'interrompre. Je n'en serai pas du tout offusquée. Je préfère une parole interrompue à une parole nébuleuse. Voilà. Donc, de la résistance comme du chien dent, harmonique de l'épuisement. J'ai un petit pied qui m'accompagne. Bien correct, c'est le rythme.
C'est ton cœur.
Oui, c'est ça. C'est mon pouls. C'est-tu normal? Mais bon,
ça va?
Oui, c'est beau. En tout cas, c'est le cœur. La volonté d'associer les termes résistance et chien dent, elle me vient de la magnifique quatrième de couverture du dernier recueil de René Lapierre, qui est professeur au département d'études littéraires et qui s'intitule « Pour les désespérés seulement ». C'est un titre qui fait écho à Walter Benjamin qui écrivait « Pour les désespérés seulement nous fut donné l'espoir ». C'est un recueil qui offre un constat assez désespéré, désenchanté du monde. À vrai dire, il fait le portrait de l'aliénation de l'homme aux structures de pouvoir et au système capitaliste. Il le critique d'ailleurs de manière extrêmement virulente, ce système capitaliste. Les poèmes, certains poèmes de manière extrêmement ironique, remercient, je cite, « les bénéfices en hausse, les actionnaires anonymes, les coupons rabais de 75 cents, les restos à 1000 $ les bars privés, les courtiers en valeur et le secret des banques ». Peut-être qu'on peut fermer le micro. Ça me bille vraiment les oreilles. Je ne sais pas, vous, c'est-tu correct?
Non, c'est désagréable.
Oui.
Approche le micro, on ne
va pas parler. Baisse à cause de ça.
Ça me va, hein, si c'est assez pour l'enregistrer, mais pas de micro, je vais être capable de parler assez fort. Ah, okay. Oui.
On va laisser faire ça.
Donc voilà. Et en contrepoint à ces poèmes d'aliénation, il y a les poèmes qui nous rappellent à notre humanité hein, dans ce recueil. C'est très caractéristique de l'écriture de Lapierre, ce contrepoint des voix-là. Donc ainsi se lit la quatrième de couverture. Elle est sur l'exemplier, donc on va la lire ensemble. Nous avions rêvé d'un monde plus humain. Ce rêve a été trahi, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. En dépit des apparences, personne ne trouve normal de tromper, de corrompre et d'anéantir. Personne n'admet l'état de guerre. Nous refusons de nous endormir avec des abuseurs et des amnésiques. Nous résistons, nous nous multiplions. Vous n'avez encore rien vu. Chien dent, famille des graminées, 400 genres, 4500 espèces, planches 17 à 24. Donc, ce qui m'intéresse dans ce poème-là, c'est que la résistance, ici, elle est chien-dentesque. Le chien-dent, on le sait, c'est la mauvaise herbe, hein? C'est ce qui chamboule l'ordre du jardin. Et plusieurs traits la caractérisent, cette plante. Tout d'abord, une ténacité extrême face aux intempéries. Ensuite, des lieux d'émergence divers et imprévisibles, les jardins de tous et chacun, les champs, les parcs, les craques de trottoirs. Le chien-dent, il pousse partout. Et enfin, un polymorphisme. 400 genres, 4500 espèces. La résistance comme du chien d'Andon, ce qui peut surgir de tous les terreaux, fertiles ou non, ce qui ne lâche pas prise facilement et ce qui peut revêtir les formes les plus diverses. La résistance concertée en temps de lutte, Simon Lévesque, qui est présent ici, bonjour Simon, et qui est mon bon ami, qui est étudiant en sémio, nous en a bien parlé dans son texte intitulé « Les mots de la lutte, les nôtres, les leurs », prononcé lors d'une rencontre organisée par les mots et images de la résistance. Je fais une petite digression ici pour saluer cette initiative de Michel Lacroix et Rachel Nadon, qui sont ici aussi aujourd'hui. Les mots et images permettaient de relire les classiques littéraires à l'aune de la lutte sociale du printemps érable, et ça a vraiment été des lieux d'échange formidables, donc chapeau. Donc, Simon Lévesque, dans son texte prononcé à mots et images, dans une volonté de se réapproprier les mots de la lutte, définit la résistance ainsi. Le sens du mot résistance, pardon, est fortement connoté par l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel un nombre important de Français a refusé de se plier aux volontés de l'occupant nazi, organisant un imposant réseau d'actions stratégiques afin d'attaquer des cibles militaires et politiques dans l'optique de faire tomber le régime de l'envahisseur. La résistance survient lorsque l'oppression des puissants est trop forte, lorsque la déshumanisation s'érige en loi, lorsque la justice, c'est la censure, lorsque la politique, c'est l'autodestruction programmée. La résistance est une nécessité. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est une fois passée cette période de lutte et de contestation sociale, celle que nous avons connue, mais aussi toutes les autres qui sont à venir, je le crois, la résistance, je le crois, ne s'éteint ni ne s'étiole, du moins elle ne le devrait pas. Elle se métamorphose, tout simplement. Donc, contrairement à la résistance en temps de lutte qui, cachée, organisée, tente des actions pour déstabiliser le pouvoir en place, la résistance, comme du chien dent, c'est ce qui n'a pas encore été vu, ce qui demande à être révélé. Nous résistons, nous nous multiplions, vous n'avez encore rien vu, chien dent. Mais comment alors se décline-t-elle, cette résistance, si elle n'a pas de mur concret contre lequel cogner? C'est la question à laquelle je vais m'attarder de répondre ce soir en présentant ma part du chien dent, un parcours de pensée qui va s'employer à révéler, à dévoiler de quelle manière la résistance, elle peut être esthétique, émerger de la forme d'une œuvre, de deux œuvres, à vrai dire, deux recueils de poésie québécois contemporains, Des fois que je tombe de René Gagnon, publié en 2005 au Cartanier, et Qu'importe maintenant de Jean-Marc Véjean, publié au Poète de Brousse en 2012. J'aimerais voir comment ces textes, qui sont placés à la frontière entre incarnation et dessaisissement, en viennent à élaborer des poétiques de l'épuisement et, en ce sens, s'inscrivent dans un réseau de résistance. Ça, c'est un peu le wrap-up de ma conférence. Je vais déployer ce que je veux dire par là. Avant d'entrer dans les textes, dans les extraits de textes que je vous ai préparés, j'aimerais faire une petite parenthèse qui va me permettre de mieux cerner ce que je veux dire par dessaisissement et donc ensuite par incarnation. Dans un texte publié en décembre 2012 dans le Crachoir de Flaubert, c'est une revue électronique qui se questionne sur la création en milieu universitaire. Jean-François Chassé, qui est professeur de littérature également à l'UQAM, a écrit un texte s'intitulant « De la littérature comme savoir », dans lequel il parle de la nécessité de s'effacer durant le travail d'écriture. Il est très critique face aux essais et aux carnets de bord qui racontent et expliquent la création d'une œuvre comme une épopée de soi à soi, comme une espèce de trip personnel. Chassé, il parle de la nécessité de se dessaisir de soi, justement. Je le cite. Autrement dit, il s'agit d'effectuer un travail de sape, un travail de tranchée qui ne vise pas un discours tonitruant, au contraire, un travail au scalpel au milieu des discours de notre monde. Encore faut-il pour cela accepter de s'effacer, de disparaître pour laisser les discours du monde envahir le texte et les ouvrir à la confrontation. Se tourner vers le réel, les langages qui sont hors de nous. Ce dessaisissement, j'en conviens parfaitement, puisqu'écrire, et c'est Deleuze qui me l'a appris dans son abécédaire, ce n'est pas parler de soi, ce n'est pas parler de sa petite affaire privée, mais c'est bel et bien devenir ou tenter de devenir un étranger dans sa propre langue, d'y instaurer un bégaiement dans le sens convenu, non pas soi-même devenir bègue, mais faire bégayer toute la langue, dit-il. Ça résume très, très grossièrement son propos. À Deleuze, pardon. Mais ce que je trouve primordial d'ajouter au texte de Chassé, c'est qu'écrire parfois, souvent, je dirais même, c'est aussi une affaire de corps. Si parfois j'écris à partir de mon père, à partir du nom de mon pays ou de la teneur d'un discours, fondamentalement, et c'est presque trivial de le dire, hein, j'écris d'abord et avant tout à partir de mon corps. Qu'on le veuille ou non, qu'on la désire plus intellectuelle qu'affective ou vice-versa, on écrit toujours à partir de sa chair. Et certains textes sont là pour nous le rappeler férocement. C'est le cas, vous aurez compris, des deux textes qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui sont, à mon sens, des incarnations et qui évitent l'écueil du simple parler de soi. Allons donc voir ce que je veux dire par là. Vous aurez bien compris que je ne pourrais pas tomber dans l'analyse exhaustive de ces deux recueils, qui sont très denses, chacun à leur manière. Vous me trouveriez extrêmement lourde, longue et intense, donc... Je vous ai préparé des extraits. Ce n'est pas l'idéal. Je sais que c'est toujours mieux de tenter une vue d'ensemble, mais bon. Je pense que les poèmes que j'ai ressortis sur l'exemplier laissent entendre, donnent à bien comprendre quand même les poétiques mises en œuvre par les auteurs. On va commencer par René Gagnon. Et avant d'entrer totalement dans l'extrait, laissez-moi vous citer une partie d'un essai qu'elle a écrit qui s'intitule « Et ce fantôme », qui est le pendant théorique de son mémoire de maîtrise qui était en création. Dans cet extrait, elle parle de son expérience de la parole. Je la cite. « Notre respiration se transforme. Nous manquons d'air alors que nous nous épuisons à suivre le mouvement fulgurant de la parole. » Je suis épileptique quand je me retrouve chair de parole qui me bouleverse l'estomac et les veines et la gorge. J'ai les yeux révulsés en dedans qui me regardent me débattre avec moi-même et m'essouffler. Le passage de la parole dans le corps rythme notre façon de nous vivre, de sortir de nous-mêmes. Fin de la citation. Et suite à cette parole qu'il nous faut suivre, Gagnon affirme que nous sommes tous asthmatiques lorsqu'il s'agit d'écrire. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas de justifier cette conception de l'écriture littéraire qui en vaut bien une autre, hein, à chacun sa cosmogonie, mais de voir comment cet essoufflement, cet asthme, prend littéralement corps dans son texte « Des fois que je tombe ». Alors, lisons ensemble les poèmes de ce recueil, les poèmes choisis. « Pendant que brûle, j'écris à qui veut trop savoir ce que décide langage. Langage s'éloigne sous. » Peau parle, je dis, ici, neige soif, moi courte, je ne marche pas, regarde, loin se vide. Je crois ne pas respirer, crois, rivière ne me mène, ni ne me boive. Mots ne sonnent jamais proches, jamais disent, dire quoi, que, seconde atteigne, corps craqué, toi, seconde, quoi dire, si je veux atteindre yeux, ce mot n'existe pas. Le corps existe, je veux corps existe. D'eau chair, je ne. Même si je prononce, je ne finis pas ce que j'ai dans les yeux. Parler existe que. Craquer mes dents, que je ne peux. Corps peut parler, corps proche, je ne me. Je, ce mot existe, je manque de, d'air toujours. Je ne suis qu'un air froid, ne passe plus, quelques cheveux, du bruit. Ne suis qu'un bruit, peau qui marche, maintenant, finir de raconter, croule. Avec le noir glace à la fin, mincit la peau, le sol, je ne marche pas déçu, ne parle jamais dans ma bouche, sinon pourrais respirer. Alors, de manière assez évidente, le premier constat que l'on peut faire à la lecture de ces poèmes, c'est qu'ils résistent à une compréhension fluide, hein, à une saisie limpide du sens à la première lecture, ce qui peut même être un peu frustrant, mais c'est un texte donc assez opaque qui nous offre l'expérience d'un vers qui se casse presque toujours avant la fin qu'on lui supposerait. Un vers, vous aurez compris, qui n'attend pas la formation d'un sens précis sur sa ligne, qui malmène la syntaxe, et qui n'a que très peu à faire de la structure sujet-verbe-complément. Ces vers, à la lecture, ils imposent l'essoufflement, l'asthme, le souffle court. Mais une fois cela dit, la question qu'il m'importe de poser, c'est quel est ce sujet poétique qui n'a que l'essoufflement comme modalité d'énonciation? J'aimerais ici préciser ce que j'entends par sujet poétique, car on va avoir le sujet poétique chez Gagnon et chez Desjardins, donc c'est important pour moi d'être précise sur ce terme. Ce n'est pas le sujet du poème, donc ce dont le texte parle littéralement. Ce n'est pas non plus ce dont traite le poème, le thème, le contenu, l'intention. Ce n'est pas évidemment l'identité de l'auteur, donc le témoignage d'une expérience subjective et originale du réel. Le sujet poétique, il prend forme dans le procès de l'écriture. Yves Vadé, qui est un théoricien de l'énonciation, en donne une définition assez intéressante. Je le cite. « Il apparaît comme la résultante des différentes postures d'énonciation assumées par le jeu du texte. Il n'est identifiable ni à l'écrivain, ni à un personnage fictif. » À mon sens, dans mes mots, le sujet poétique, ce qu'il permet de faire, c'est de poser les questions suivantes et, en ce sens, d'y répondre. Comment parle le poème? D'où parle-t-il? Quel est, d'une certaine manière, le grain de sa voix? Chez Gagnon, c'est assez simple, c'est assez évident. Le sujet poétique, il parle à partir d'un essoufflement. Il est défini par ce manque d'air. Je crois ne pas respirer, crois, dit-il, je manque d'air toujours. Mais d'où provient-elle cette suffocation? Après quoi court-on ici? À quoi s'affaire-t-on? Elle nous l'a dit dans son essai. On s'affaire à suivre le mouvement fulgurant de la parole, à tenter de dire les modalités de la parole qui passe dans le corps, de sa traversée du corps. Et c'est d'une lutte serrée avec les mots dont il s'agit ici, car à qui veut trop savoir ce que décide langage, langage s'éloigne sous. Chez Gagnon, le poème sans cesse réaffirme la part de souveraineté de la langue. Ne parle jamais dans ma bouche. Ce vers nous rappelle que face à celui qui prétendrait la contrôler, la langue, la posséder complètement, la parler uniquement dans sa bouche, elle se dérobe sans cesse. Les mots ne sonnent jamais proches. Le corps peut parler, mais même s'il prononce, il ne finit pas ce qu'il a dans les yeux, car maintenant, finir de raconter croule. Dans ce mouvement croulant du dire, justement, dans cette logique de la chasse à la parole, l'écriture, eh bien, c'est le lieu où l'essoufflement peut prendre forme, se transformer en rythme. Dans un mouvement qui abolit la dichotomie entre fond et forme, les poèmes, simultanément, ils se font les témoins et les traces d'une expérience de la parole qui n'est absolument pas aisée, qui n'est pas sans heurts. Et de cette expérience, vous l'aurez compris, il en résulte une corporéité qui est très problématique, une corporéité qui se questionne, qui est ambiguë. Corps existe, se demande le sujet. Je, ce mot existe, ne suis qu'un bruit, se questionne-t-il? Dans les poèmes de Gagnon, le corps est craqué, la peau mincie, les jambes fléchissent. Tout le recueil, pas juste les poèmes que je vous ai mis, mais vraiment dans tout le recueil, se construit la figure d'un corps qui peine à la tâche, qui est torturé, dépassé par l'expérience de sa propre parole. Mais justement, si le corps ne suffit pas, s'il n'est que du vent, je ne suis qu'un air froid. Où donc se trouve la caisse de résonance nécessaire à l'apparition de sa voix, sinon que dans le corps du texte, qui vient soutenir le corps faillible, affaibli et haletant, qui vient, chair de parole, lui offrir un lieu d'ancrage? Il me semble en effet que c'est bien au cœur de l'architecture des poèmes que cette voix apparaît, s'incarne, s'élève et donne à entendre le rythme de ce souffle troublé, de cet asthme. Voilà. Donc, c'est court, mais on y reviendra tout à l'heure après avoir parlé de Desjardins un petit peu. Chez Desjardins, il y a aussi incarnation, mais ça fonctionne autrement. Et avant d'en parler, on va lire, hein, parce que c'est toujours important. Donc, « Qu'importe maintenant » de Jean-Marc Desjardins. Le réel m'embrasse et m'ouvre la gueule. Je respire enfin le monstre de ma personne. Je n'habite plus rien, ces grands trous ou ces corps irréels, avec le bon des eaux, le beau des anges noirs. Un sac de cendres me protège du rêve. Tous mes morts sont des idoles. Ils ont ma tête entre leurs crocs. Moi, l'effarouché, avec de petites filles qui me courent dedans partout, j'exhume ma propre bête. Moi, la starlette des apocalypses, avec des garçonnets qui me courent dedans partout, j'entre dans mon propre troupeau. Je me pense l'être nulle part, je ne sais rien de ma blancheur, à l'opposé des torses, à l'autre carcasse, et l'envers de ce que je reconnais comme désir. C'est le monde, jeu inextricable de bras forts, de fessées, de traitements acides, jeu de morsures. Je ne me suis jamais vue que couchée, cachée, creusée, calée dans l'être. Je suis dans la pensée banquise, dans la grande tombée du blanc glace, dans son effondrement, bras cassés, côtes fêlées, jambes coupées, pieds cloués. On m'a fait les poings, on m'a inventé mort, on m'a donné le vide. Des bleus bleus comme ciel de nuit insondable, dans l'égaré et dans le théologique, je vis dans mon corps ailleurs. Certains sont cœurs pétrifiés, je suis. D'autres sont brûlés dans leur tête, je suis. D'autres n'ont plus de chair humaine, mais des mains écrasées à l'ouvrage. Certains ont le cœur expiré, je suis. D'autres sont poignardés ou envoyés aux usines, c'est tout comme. Tombe, plonge et je m'écroule aussi. On ne peut pas être plus défiguré. Me voici. Mes neiges ont des glisses, se bruissent des glaces. Je suis sans homme, sans cœur, je suis frigorifié. Avec mes crevaisons d'âme, l'impossible dehors, j'ai les mains vides de Dieu. L'épiphanie des mots et des astres malgré eux. Dans l'existence pauvrette, je suis maldit, c'est maldit. Démembré et chuté les êtres parfaits, c'est moi qui déferme la porte de mon cadavre peuplé. Je suis combien d'âmes boréales. Voilà. Donc, vous aurez compris que chez des gens, on est face à un sujet poétique qui est embrassé, réquisitionné par le réel, mais c'est un réel qui n'offre aucun point de réconfort, nul refuge, nul asile. Chez des gens, dans qu'importe maintenant, mais aussi dans le 20e siècle, les temps modernes, qui est son avant-dernier recueil, les temps modernes, ils n'ont rien d'idéal, mais ils provoquent plutôt une désincarnation de l'homme et le sujet poétique, donc, chez des gens, devient nul autre qu'un condamné de l'histoire. C'est le monde, nous dit-il, jeu inextricable de bras forts, de fessées, de traitements acides, jeu de morsures. Et ce monde, ce réel, il ne lui laisse pas le corps tranquille. Au sujet, il le réquisitionne, il le met à mal, bras cassés, côtes fêlées, jambes coupées, pieds cloués. Et vous aurez compris que l'habitation de ce corps cassé, bien entendu, elle est problématique. D'un côté, ce corps, il est squatté, surpeuplé par les petites filles et les garçonnets qui lui courent partout dedans. Et de l'autre côté, il est placé face au grand trou, face au vide. Entre exhumer sa propre bête ou entrer dans son propre troupeau, c'est quand même toujours le cadavre qui est peuplé, c'est quand même toujours la mort qui rôde. Je n'habite plus rien, nous dit-il, je suis sans homme, sans cœur, je suis frigorifié. Ici, nulle présence stable, nulle incarnation possible dans le monde, hein, sinon que dans la douleur, dans la brûlure, la tête entre les crocs, de tous ces morts. Je me pense l'être nulle part. Je ne me suis jamais vue que couchée, cachée, creusée, calée dans l'être. Dans cette immobilité, cette impossibilité à se lever dans l'être, justement, à s'y incarner, où donc apparaître alors, sinon que dans le corps du texte, d'où surgir, sinon que du poème. Si dans l'existence pauvrette, je suis maldit, c'est maldit, vers d'ailleurs qui nous rappelle le mal vu, mal dit de Beckett, où donc puis-je bien me dire, où donc enfin respirer, donc vivre le monstre de ma personne, sinon que dans le poème. Certains sont cœur pétrifié, je suis. D'autres sont brûlés dans leur tête, je suis. Certains ont le cœur expiré, je suis. Tombe, plonge et je m'écroule aussi. On ne peut pas être plus défiguré, me voici. Révélé, dévoilé à vous par la voix du poème, la voix du texte qui ne me décrit pas, ne me console pas, ne vous livre pas mes états d'âme, mais m'incarne fondamentalement. Me voici. Le poème chez des gens, c'est assez simple. C'est le possible lieu d'inscription de la voix, du souffle, de la parole de celui que l'on a inventé mort. Je vis dans mon corps ailleurs, nous dit-il. Tu vis dans le corps du texte. Je lui réponds. On ne peut pas être plus défiguré, me rétorque-t-il. On ne saurait être plus figuré, lui dis-je, vu le nombre d'images qui composent ta chair. Donc voilà pour mon analyse rapide encore des poèmes de Desjean, mais ça vous donne une idée. Si, à mon sens, ces deux recueils sont des incarnations, c'est bien parce qu'ils donnent à lire le corps du sujet poétique et le corps du texte comme des entités consubstantielles, nécessaires l'une à l'autre, gagnant en consistance l'une de l'autre, s'échafaudant l'une avec l'autre. Et une fois cela mis en lumière, ces incarnations précises, ce qu'il m'importe d'examiner dans un deuxième temps, c'est la tension que créent ces textes et la tension qu'ils maintiennent aussi entre l'incarnation et le dessaisissement dont je vous parlais tout à l'heure. Ce dessaisissement, il est évident chez les deux auteurs, chez des gens comme chez Gagnon, même si l'on s'écrit, l'on ne parle pas de l'aventure de l'être créateur, l'on ne témoigne pas de sa petite affaire privée, l'on fonde une énonciation tierce, portée par un sujet poétique qui, lui, peut parler en étranger dans sa propre langue, peut l'essouffler, lui fêler les côtes, lui faire le rythme asthmatique, s'y démultiplier en combien d'âmes boréales. Et en même temps, face au dessaisissement, face à l'étrangement de la langue, le corps est nécessité, réquisitionné par le poème jusqu'à s'y incarner. Et dans cette tension, donc, que crée le texte, apparaît la notion d'épuisement, d'où le titre de ma conférence. Je dis épuisement, et je vais préciser ce que je veux dire par là. Pourquoi je dis épuisement? C'est parce que ces textes, ils ne veulent pas la résoudre, cette tension-là, entre altérité de la langue et incarnation du corps. Chacun à sa manière, il la place comme condition fondamentale de l'apparition de l'œuvre, apparition de la forme. Il la place comme le mouvement même de l'écriture. Il s'épuise à la reconduire sans cesse. Donc, l'épuisement, ce n'est pas un programme esthétique. La manière dont je conçois l'épuisement, pardon, comme si je révélais des grandes vérités. La manière dont je conçois l'épuisement, ce n'est pas comme un programme esthétique qui commanderait certaines formes, comme une ascèse dans la syntaxe ou un minimalisme de la phrase. Ce n'est pas non plus un état présent de la littérature qui laisserait présager la fin de certains genres caducs. Mais c'est bel et bien une manière de penser l'écriture à même son acte. Et pour penser l'écriture à même son acte, un paradigme est nécessaire, c'est celui du corps. L'épuisement, donc, comme une saisie du corps, tel qu'il est sollicité par l'écriture, tel qu'il s'incarne à travers elle, qu'il est nécessité par elle, passé à l'écrit. D'où la pertinence de parler, je crois, de poétique au pluriel, de l'épuisement, et non pas de faire de l'épuisement un thème ou un style. Les diverses poétiques, donc, seraient les manifestations esthétiques de cette sollicitation du corps par l'écriture. Parce que je vous ai parlé de Desjean et de Gagnon aujourd'hui, mais j'aurais pu vous parler de Saint-Denis Garneau, de Pierre Perrault, ou d'Hervé Bouchard. C'est un petit peu facile, c'est mon corpus de thèse, mais sinon, je suis convaincue que j'aurais pu vous parler dans cette optique de certains textes de Beckett ou de Valère Novarina, de bien d'autres aussi sûrement, qui sont à découvrir, à lire ou à relire à l'aune de cette notion d'épuisement pour nous donner à entendre ces différentes harmoniques, ces différentes poétiques. J'utilise le terme harmonique parce que l'harmonique, ça sous-entend la possibilité de faire se rencontrer diverses poétiques pour voir comment elles s'accordent, comment elles sonnent, comment elles résonnent ensemble. Et c'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui en accordant Desjean et Gagnon sous l'angle de la résistance pour voir si elles pouvaient, ensemble, ces poétiques, appartenir à une même espèce de chien-dent. Si une chose me permet d'affirmer que oui, c'est que les voix qui s'élèvent de ces textes, à travers la réflexion qu'elles me permettent de poser sur l'écriture, me rappellent que la parole, dans toute sa complexité, dans la part d'assujettissement et d'étrangement qu'elle comporte, la parole est aussi une affaire de corps, et que c'est au creux du corps, par son passage à travers celui-ci, qu'elle peut s'architecturer, en un rythme inouï, un rythme pas encore entendu, qu'elle peut s'architecturer aussi en pensée complexe. Face au mépris et à la violence symbolique auxquelles nous avons eu droit le printemps dernier, face au refus net de quelque pensée complexe que ce soit, à la réduction et à la démonisation des symboles que nous avions choisis pour lutter, face à la désincarnation du discours par les représentants gouvernementaux de toute une partie de la population, il me semble qu'il n'est pas anodin de rappeler que certaines voix, résistance tranquille, par les tensions qu'elles mettent en œuvre et les formes dans lesquelles elles s'énoncent, sont là pour nous redire, doucement et à leur manière, qu'il est non seulement encore possible, mais nécessaire de croire en sa parole comme gage de présence au monde, nécessaire de se croire sur parole. Merci.